alors, sans transition, eh bien, nous en arrivons à la traversée transatlantique. Cet été, eh bien, une délégation, on l'a dit, de 160 personnes, à moins que tu me démentes, vont se rendre par bateau. Donc, c'est carrément un projet incroyable. Alors, voudrais-tu nous dire en quelques mots, on l'a dit, hein, il y a 6 déclarations que l'on a mis sur le site internet. Le site évidemment central sur lequel on retrouve tous ces Enla, ces Apatistas, c'est effectivement le lien est précisé également. C'est là où on peut vraiment prendre les informations, la première source, disons. Mais voilà, j'aimerais bien t'entendre nous dire, selon toi, comment est né ce projet et à quoi est-ce qu'il aspire?
Bon, les apatistes sont jamais à court de surprises. C'est ce que moi je peux dire. Ouais. Parce que ça nous a tous bien scotchés au mois d'octobre quand on a lu leur déclaration. Donc, qui est le sixième communiqué. Hein, il y en a eu six. Donc, on a commencé par le sixième et terminé par le premier. Mm-hmm. Ce texte numéro 6 au mois d'octobre, pour tout le monde, hein, ça a été une grande surprise et de dire waouh, non, mais c'est pas possible.
Ouais.
Ils en inventeront toujours une nouvelle. Et puis, bah, tout en sachant que quand ils proposent des choses aussi fous, des choses aussi folles, c'est qu'en plus c'est possible parce qu'ils ont fait d'autres choses bien plus folles. Hein. Ils ont quand même déclaré la guerre à l'armée fédérale. Hein, donc moi, s'ils disent qu'ils vont traverser les mers en bateau, je les crois.
Oui. Non, mais en plus, il s'agit de 160 personnes, c'est ça, hein, le chiffre est plus ou moins correct.
Pour l'instant, oui, c'est dans cet ordre-là.
Ouais. Et alors, est-ce que toi, tu sais déjà. Alors, ces aspirations, on l'a vu, c'est un voyage pour la vie, ce sont des rencontres, c'est le fait de témoigner d'une certaine manière du zapatisme, du rapport que l'on pourrait avoir et que l'on a oublié avec la terre, avec les éléments, mais également entre nous les humains.
L'objectif, c'est vraiment de faire que les luttes se rencontrent, les luttes en bas à gauche, comme ils disent.
Ouais.
Et puis aussi voilà de venir dire jusqu'en Europe que eux ils utilisent cette formule qu'ils se sont pas ni vendus ni rendus et qu'ils n'ont pas non plus abandonné. C'est plus de 500 ans de résistance depuis la colonisation et c'est la revendication de personnes à dire qu'elles sont libres de décider ce qui se passe dans leur vie et dans leur territoire et que ça ni aujourd'hui ni hier que ces terres-là n'ont pas été colonisées. Je pense que c'est le message.
En bas à gauche, moi je trouve la formule assez intéressante, elle est très révélatrice de quelque chose. En bas à gauche, 160 personnes, est-ce que tu saurais nous dire d'ores et déjà qui sont-elles, quelles organisations est-ce qu'elles vont représenter? Ou est-ce que c'est quelque chose encore dont on ne sait pas les contenus exactement?
Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ces délégations seront constituées majoritairement de femmes. On ne sait pas, j'ai pas connaissance de la proportion. Mais en tout cas, le ZLN a déclaré qu'il enverrait cette délégation. Et qu'il allait inviter d'autres luttes d'ici à participer, donc notamment le Congrès national indigène, qui est un rassemblement des différents peuples indigènes en lutte au Mexique, qui existe depuis 1995, je crois, si je me trompe pas, qui est une immense organisation, hein, qui rassemble énormément de peuples et qui se réunit régulièrement pour établir un peu les stratégies de lutte et la manière de dire que chaque lutte est soutenue par les autres. Et ils seront accompagnés aussi du Front des Peuples en défense de l'eau et du territoire de Morelos, Puebla, Tlaxcala, qui est justement un front plutôt du centre du Mexique, qui lutte notamment contre ce projet dont on a parlé tout à l'heure, le projet intégral Morelos, et tous les méga-projets qui voudraient occuper le territoire et les ressources naturelles. Et le CNI s'est rassemblé dernièrement, là, le 20 et 21 janvier dernier. Ils ont tenu leur 5e Assemblée nationale et ils ont rendu public leur déclaration où ils déclarent qu'effectivement, ils suivraient le ZLN dans ce périple sur les 5 continents. Donc, Donc, pour l'instant, on n'a pas d'informations plus larges que ça sur la composition des délégations, mais on les attend.
Mais oui, c'est clair. Alors, pour les dates et les lieux, si j'ai bien compris, pour le moment, c'est encore indéterminé. Enfin, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus. Moi, j'ai 20 juillet à Gênes, qui est évidemment la ville de Christophe Colomb. C'est la date de la mort de Carlo Giuliani, donc c'était pendant le G8, hein, donc c'est un moment comme ça assez symboliquement fort. Le 13 août à Madrid, donc là c'est un peu la date de Hernán Cortés, la destruction de la ville de Tenochtitlan. Et puis le 12 octobre, qui est la date de l'an 1492 ou 92, où les bateaux de Colomb ont accosté avec les envahisseurs sur l'île de San Salvador aux Bahamas. Et donc il y aurait cette date-là également une présence un petit peu particulière. Est-ce que de ton côté, tu en sais un peu plus ?
Pour l'instant, la seule date qui est officielle et qui a été posée, c'est celle du 13 août à Madrid. Qui a été annoncé officiellement. Après, toutes les autres dates dont tu parles, moi, j'en ai pas la connaissance. Ça veut pas dire qu'elles n'existent pas, hein. Je sais pas. Pour l'instant, les différentes commissions, agendas s'organisent au niveau européen. C'est un projet qui est en construction. Donc pour l'instant, moi, je vais pas m'avancer sur ces autres dates. Peut-être, hein. Effectivement, c'est des dates qui correspondent à des moments clés, donc ça serait logique et intéressant qu'il y ait des choses qui soient faites autour de ça, mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation particulier.
Je t'enverrai la source, parce que de mémoire, je ne sais plus. Mais effectivement, alors voilà, comme tu le dis, il y a évidemment beaucoup de choses qui restent à faire, puisque c'est un projet pharaonique, c'est quelque chose d'incroyable. Ce sont des personnes qui, pour certaines, partent de la forêt Lacandon et qui vont se retrouver en Europe avec évidemment un cadre totalement différent. Et pour s'y retrouver, eh bien, il faut voyager, et ce voyage, il sera fait par bateau, a priori. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'état de la solidarité, ou est-ce qu'on peut annoncer des choses concernant, voilà, le matériel, la logistique, toutes ces choses-là, parce que 160 personnes qui font une traversée transatlantique, ça va pas se faire comme ça. Et puis, alors, il y a cette problématique de la traversée, donc des bateaux, tout simplement, mais également de l'accueil une fois que ces personnes vont arriver en Europe. Est-ce qu'on en sait plus sur, comment vont-elles être logées, nourries, comment est-ce qu'elles vont pouvoir vivre toutes ces rencontres en Europe?
Tout ça, c'est vrai que c'est encore à l'état d'ébauche et d'organisation. Hein. Il y a des dizaines, voire des centaines de collectifs qui travaillent ensemble au niveau européen pour répondre à toutes ces questions. Pour l'instant, rien n'est fixé, hein, j'ai envie de dire. Il y a une commission navale qui travaille par rapport à toutes les problématiques de bateaux. Il y a une commission de finances qui travaille justement aussi pour voir comment tout ça sera financé. Hein. Oui. Donc il y a plusieurs choses. Il y aura des appels à la solidarité via des crowdfunding. Il y a un jeu zapatiste. Ce jeu est en train d'être fabriqué en coopération entre un collectif espagnol qui s'appelle Lumaltic et un collectif d'artistes Grand Homme, un collectif mexicain. Et ce jeu, vous pouvez l'obtenir en Suisse en vous adressant à Apolline.
Et nous, on le rajoute au libellé du podcast.
Ils espèrent pouvoir sortir des fonds de ces ventes. Donc. Oui. Et puis après, au niveau de l'hébergement et de la nourriture, etc., on s'organisera collectivement. Hein. Je pense qu'il y aura suffisamment de monde motivé pour recevoir les compas comme... et toutes les délégations pour qu'on arrive à s'organiser, à loger, à nourrir tout le monde. On n'en sait pas bien plus pour l'instant.
Eh ben, c'est très bien.
On espère bien pouvoir organiser des événements culturels si le temps le permet, on va dire.
Mais oui, et c'est un exemple déjà d'aventure autogestionnaire, horizontale, d'échange et de partage. Avant même que cette délégation n'arrive, eh bien, des solidarités ont cours et c'est déjà une victoire, quoi. D'une certaine manière.
C'est exactement ça, c'est que dans tous les cas, ils ont réussi ça, quoi, à nous reconnecter ou nous connecter, à faire se rencontrer des gens et des luttes qui d'habitude se parlent pas, qui cohabitent ou qui sont loin en Europe. Mais c'est vrai que quand on, bah, quand on est dans sa lutte, on n'a pas forcément toujours le temps de tisser ces liens, mais qui, bah, je crois, sont fondamentaux, quoi, parce que bah, l'hydre capitaliste, avec toutes ses têtes, elle est bien organisée, et elle est bien sur tous les fronts et sur tous les continents et à tous les niveaux. Donc c'est de cette manière-là qu'on doit s'organiser. Donc dans tous les cas, ce qu'ils nous ont proposé, c'est déjà un grand défi et une grande victoire d'avoir réussi, voilà, à rassembler et à faire discuter tous ces gens, quoi.
Absolument. On va le rappeler, le site internet, disons, qui, on va dire, fait foi vraiment, sur lequel les informations sont tout à fait sûres, c'est la source de base, c'est enlacesapatista.ezln.org.mx pour Mexique. Là-dessus, il y a effectivement les déclarations. Nous, on les relaye, on les a évidemment mises, ainsi que les podcasts et tout sur notre site, sur le site de la radio. Mais disons que voilà, là, on peut vraiment puiser les informations qui sont tout à fait claires et puis sûres. Revenons-en à ce voyage. Alors là, on l'a dit, on a parlé du trajet. Ça va être effectivement, c'est déjà une magnifique aventure. On a parlé un peu avec Philippe et justement avec les personnes qui vont venir, dont on a parlé de la problématique de la traduction. Toi-même, tu es impliqué là-dedans parce que voilà, on a ouï dire que, eh bien, évidemment, les personnes, certaines parlent espagnol, mais d'autres ne parlent pas l'espagnol, mais des langues indigènes. Et donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce qu'on va arriver à ce que tout le monde comprenne tout le monde. Alors, concernant l'Europe, le regard des apatistes et de ces personnes de la délégation et des personnes qui les entourent sur l'Europe, quel est-il? Voudrais-tu nous en dire quelques mots, si tu en sais quelque chose? Mais toi qui les croises et avec lesquels tu partages ton quotidien, j'imagine que tu as pu quand même entendre dire des choses. Alors, le regard sur l'Europe, et notamment sur la France, puisque tu es à cheval, comme tu l'as dit, sur le Mexique, le Chiapas et la France. La France qui, on le voit, traverse une crise sanitaire, comme tout le monde bien entendu, également une crise identitaire. Il y a une problématique assez dure en ce moment, avec des groupuscules fascistes qui émergent. Alors voilà, quel est-il ce regard depuis le Chiapas insurgé, de nouveau depuis ta position?
J'ai envie de dire, c'est un peu quelque chose qu'on a vu justement dans les rencontres de femmes. Quand je disais tout à l'heure que les femmes apatistes avaient des peines à croire tout ce qu'elles entendaient, et dans leur déclaration, elles disent d'un pays où on parle de progrès et de modernité, entre guillemets. Hein. Et je pense que le regard, c'est un peu ça, enfin, c'est un peu d'essayer aussi d'avoir un regard critique sur cette espèce de pseudo-modernité du progrès. Que souvent l'Europe voudrait bien faire entendre. Enfin, disons que je crois que la vision du Chiapas insurgé ou du Mexique en général, elle n'est pas du tout la même par rapport à l'Europe. Parce qu'au Mexique, il peut y avoir une certaine fascination par rapport à la France, à l'Europe, à ces pays. Alors que moi, c'est ce que j'aime bien démonter un petit peu aussi et rappeler que. Bah que non, qu'en France, il y a des gens qui meurent de faim et de froid dans la rue, qu'il y a des violences sur les femmes, qu'il y a un système démocratique tout pourri, qui a une crise sanitaire qui est gérée de manière autoritaire. Enfin, de rappeler ça, de rappeler que non, c'est pas le paradis du tout. Mmh. Et pour le coup, du point de vue, je pense, des communautés autonomes ici, il n'y a pas du tout cette fascination, en fait, par ce modèle. Il y a une critique du modèle. Il y a une critique des entreprises transnationales qui viennent piller des ressources. Il y a cette réalité qui est claire que si l'Europe en est, est-ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a pillé les trois quarts du monde, et que ça, c'est pas gratuit, et qu'il y a un jour, j'ai envie de dire, faut que ça se paye, mais c'est un peu ça, quoi. Ça peut pas continuer comme ça.
Il y a un regard critique qui est là, quoi. C'est chouette, ouais. Concernant, alors justement, le deuxième volet, c'est concernant, voilà, ces mouvements fascistes qui émergent de plus en plus. Et puis, par analogie, on observe l'Europe avec Fortress, par exemple, avec Frontex également. On observe vraiment des infrastructures qui sont vraiment mises en place pour rejeter les personnes migrantes. Hein. La Méditerranée est un cimetière, les montagnes entre l'Italie et la France deviennent des cimetières également. Il y a vraiment ce déni de l'autre, ce déni également de la personne qui vient pour se réfugier. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis d'un autre côté, tu l'as dit, cette question de l'extractivisme et également de pollution, de déni de la nature, de terres outragées, polluées. Tout ça, c'est aussi des choses qui ont cours en Europe avec les sièges de toutes ces transnationales qui agissent, dont les méfaits sont pléthores, hein, dans le monde entier. Est-ce que ça, c'est effectivement présent dans l'esprit des apatistes qui donc du coup vont se pointer dans des endroits où effectivement il n'y a pas que des gens qui les aiment bien, quoi, d'une certaine manière. Il y a également tous ces sièges de transnationales. En Suisse, il y en a tellement. Est-ce que ça habite leurs esprits?
Je ne veux pas parler à leur place, mais je pense que c'est des choses dont ils sont tout à fait conscients.
Ouais.
Moi, une des choses qui m'a épatée énormément au Chiapas et dans les communautés et dans les gens qui gravitent autour, c'est de voir le degré d'information qu'il y a par rapport à d'autres endroits qui pourraient être, on va dire, en ville ou avec des accès à l'information beaucoup plus facile et qu'en fait les gens sont complètement désinformés. Je pense que tout ça, c'est des choses qu'ils et elles ont complètement à l'esprit. Et c'est intéressant que tu parles justement de la situation des migrants en France. C'est la cinquième partie, le texte 5, du coup, le deuxième qui a été publié, qui s'appelle « Le regard et la distance avant la porte », qui parle justement de ça, en fait, et qui nous invite à changer notre regard, à changer notre prisme d'observation, en partant, par exemple, justement, d'une femme réfugiée dans la rue avec son bébé, en nous invitant à modifier le regard et à regarder les gens comme étant des personnes et à se demander le pourquoi ils sont là, en fait. Pourquoi cette femme, elle est là? Est-ce que cette femme, elle est là parce qu'elle a décidé d'être là, ou est-ce qu'il y a des choses qui l'ont poussée à être là? Et si oui, parce que la réponse est oui, quelles sont ces choses? Et dans ces choses, quelle est notre responsabilité à nous qui ont fait que cette femme, elle se retrouve là à ce moment-là?
Et que ces personnes sont parties dans tout dont nous sommes, quoi qu'il en soit, et quoi qu'on en dise, et quoi qu'on fasse, et que nous serions avisés de nous en rendre compte, parce que les choses changent vite, hein, sur le point de vue d'une personne, non, mais du point de vue historique, on sait bien que les situations peuvent facilement se renverser, et puis les gens qui accueillent peuvent, le lendemain, être les personnes accueillies, par exemple.
Exactement.
Ouais. Écoute, voudrais-tu nous dire quelques mots? On a cité à plusieurs reprises les déclarations au nombre de 6, dont la singularité est d'aller de 1 à 6, mais d'être lisible à l'envers. Donc la 6e comme la première, la 5e comme la 2e, etc. Elles sont également évidemment disponibles en plein de langues, donc on peut les partager dans toutes les langues que l'on veut sur le site Enlace Zapatista. Nous, on les a également mises en PDF et même en audio sur le site de la radio pour si jamais. Voilà, ces déclarations, elles sont là pour quoi? Alors, j'aimerais te le faire dire à toi, en fait. Pourquoi sont-elles là?
Elles ont toutes des contenus assez différents, en fait, hein, si on les regarde une par une. Donc, la 6e déclaration, en plus de ces centaines de collectifs européens, est aussi signée par le sous-commandant Moïsès, donc, c'est-à-dire porte-parole de l'EZLN et des communautés zapatistes, ainsi que par le Congrès national indigène, donc, qui rassemble les peuples en lutte au Mexique, aussi par le Front des peuples en défense de la terre et de l'eau, Morelos Puebla Tlaxcala, qui est donc le front qui lutte contre le méga-projet Morelos dans le centre du Mexique, où le compañero Samir Flores a été assassiné le 19 février 2019. Et donc, la sixième déclaration est aussi signée par Don Pablo Contreras, donc Pablo González Casanova, qui fête ses 99 ans ce mois de février. Lui est le seul commandant de l'EZLN non zapatiste. Il a été nommé par les communautés zapatistes il y a 2 ans, je crois, comme commandant de l'armée zapatiste de libération nationale. Et il est donc le seul à ne pas être indigène. Donc, c'est un ancien recteur de la UNAM qui a démissionné de ses fonctions en soutien au mouvement universitaire et contre la privatisation de l'université. Et donc, enfin, c'est quelqu'un qui, dans ce dernier demi-siècle, a toujours marché aux côtés des peuples et soutenu les différentes luttes pour la vie, contre le capitalisme, et qui est donc signataire de lui aussi de cette déclaration. Donc, c'est quand même un appel du monde universitaire et du monde intellectuel à rejoindre aussi cette déclaration pour la vie, que vous pouvez toujours signer en envoyant un mail avec le nom de votre collectif ou le nom individuel à l'adresse qui se trouve à la fin du communiqué et qui est, je vous la donne, firmasporlavida, en un seul mot, @ezln.com.mx. Ensuite, les 5, 4, 3 et 2, elles sont signées par le sous-commandant Galeano, alias le sous-commandant Marcos, on va dire. Mmh. Je ne sais pas si je vous fais la petite histoire de pourquoi il s'appelle Galeano, ça peut être intéressant.
Oui, si tu veux bien, ce serait fantastique, quoi.
En fait, en 2014, après l'Escolita, il y a eu une attaque paramilitaire à La Realidad et le groupe a assassiné un prof de l'Escolita qui s'appelait Galeano. Et il y a eu à ce moment-là une discussion très intense dans les communautés de savoir ce qu'ils allaient faire. Quelle allait être la réponse à cette attaque qui a été très violente et très douloureuse. Et ce qui est ressorti, ça a été que non, qu'ils n'allaient pas reprendre les armes et qu'ils n'allaient pas rentrer dans un conflit armé parce que s'ils avaient poursuivi dans un conflit armé depuis 25 ans, il n'y aurait pas d'école et d'hôpitaux, quoi. Donc ils ont convoqué plein de gens à venir reconstruire, parce que l'école avait aussi été détruite, donc à venir reconstruire l'école de La Realidad. Et en fait, le sous-commandant Marcos a fait un sacré tour de passe-passe, comme ils en ont l'habitude, où ils ont profité en fait de ce moment-là pour tuer justement l'image de Marcos, parce que c'est aussi ce que les médias et les gens en général aimaient bien relayer. Hein, le mouvement zapatiste, il a souvent été limité à la figure de Marcos, alors que Marcos, il est personne. Et il est rien sans toute la base en fait des milliers de personnes organisées. Donc ça a permis de tuer cette espèce d'image médiatique de Marcos et de renaître dans la figure de Galeano. Donc celui qui est mort en fait, c'est le sous-commandant Marcos, et le prof Galeano n'est pas mort et il est devenu sous-commandant. Donc c'est le sous-commandant Galeano.
D'accord.
Voilà.
Merci pour ces précisions.
Donc là, c'est lui qui a signé les quatre déclarations les quatre communiqués qui ont suivi. Ces communiqués, c'est plutôt des réflexions, je disais, donc le cinquième qui s'appelle le regard et la distance avant la porte. Et la quatrième partie, c'est très axé sur la mémoire et les histoires. Donc il fait intervenir le vieil Antonio, qui est l'ancien indigène qui a révélé un peu l'histoire et les secrets de comment vivre dans les montagnes et comment vivre la lutte, en rappelant aux guérilleros qui débarquaient dans les années 80 que la lutte ici, elle datait pas d'hier, hein, et que les peuples résistaient à la colonisation depuis 500 ans. Donc il y a toute cette partie sur la mémoire. La troisième partie, qui s'appelle la mission, ça parle de la construction des bateaux, des radeaux pour partir à l'assaut des mers. Il y a des vidéos qui vont avec.
Oui, c'est vrai. Il faut qu'on rappelle qu'il y a plein de vidéos. Il y a plein de dessins également. Je ne sais plus le nom que ça porte maintenant, mais c'est les choses cousues, là, les tissus.
Ouais, des bordados, oui, des tissus brodés, oui, avec des références de lutte et... ils sont disponibles à la fin de tous ces communiqués. Et la deuxième partie qui s'appelle la cantina, quoi, le bar, qui est un espèce de qui plonge le lecteur, on va dire, dans une espèce de d'ambiance de décadence et de débauche, qui est une espèce de métaphore du capitalisme, quoi. Mmh. Avec de savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi, si on rentre, comment on participe, qui on est, comment on peut faire pour ne pas participer à cette mascarade et à cette destruction et essayer de poursuivre un autre chemin. Enfin, c'est toujours voilà ces métaphores. Qui sont très poétiques, mais qui sont très fortes, qui sont très, très, ouais, résistance et rébellion, quoi.
Ouais.
Et la dernière, qui est du coup la déclaration pour la vie, qui, en gros, rappelle qu'on est tous différents, que dans toutes ces luttes, il y a plus de choses que, enfin, individuellement, il y a plus de choses qui nous différencient, on va dire, que de choses qui nous unissent, mais qu'il va falloir qu'on s'appuie sur ces choses qui nous unissent pour pouvoir construire quelque chose ensemble, et celle-là, elle est signée par Nosotroas, donc c'est-à-dire par tous les collectifs et collectives et individus signataires qui sont la première, enfin qui sont des centaines, et puis là il y a encore plus de monde qui continue à signer cette déclaration pour la vie, qu'on peut toujours signer hein, pour ceux
oui tout à fait et là effectivement les liens, les mails et tout sont d'ores et déjà en place sur le site internet. On terminera par rappeler justement les sites sur lesquels on peut se rendre pour se renseigner. J'aimerais d'ores et déjà te remercier beaucoup, Julia, d'avoir pris tout ce temps pour répondre à toutes ces questions, pour nous avoir expliqué un petit peu cette atmosphère qui règne. On le rappelle, toi tu es à Saint-Christobal en ce moment, en plein Chiapas insurgé, et que tu es là depuis un moment, que tu fais justement ces allers-retours avec la France. Caro, est-ce que tu as des questions?
Oui, moi j'en ai une petite question. Est-ce qu'il y a des points communs entre la société cubaine et la société zapatiste? Je ne sais pas si tu sais ou pas. Parce qu'il y a aucun, il y a aussi une forme de lutte, je pense, à Cuba, qui est peut-être différente, mais il y a peut-être des points de convergence.
Des points de convergence, il y en a très certainement. Hein. C'est en tout cas des luttes qui résistent à l'oppresseur, à l'envahisseur, d'une manière ou d'une autre. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de lien direct, en tout cas, ou institutionnel, ou quoi que ce soit, avec le gouvernement cubain. Mais en tout cas sur l'idée de se développer dans un territoire donné avec en autonomie et en autogestion, on va dire, et puis de voir je sais pas, après ça c'est moi qui le rajoute, mais quand on voit aujourd'hui comment le système cubain gère la crise sanitaire, on voit que ils savent y répondre beaucoup mieux que de nombreux pays dans le monde entier. Donc, sans que ce soit comparable, mais je pense que le fait que des gens s'organisent de manière autonome, ça permet d'avoir un autre regard. Parce que, c'est vrai que là, par rapport, ça me fait penser à la gestion un peu de la crise sanitaire et sociale par les communautés zapatistes. Moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment que de vivre ça individuellement ou de le vivre communautairement, ça a rien à voir. Et que ça, je crois que c'est ce qui nous manque en Europe aussi, surtout de se retrouver des individus parfois seuls face à ça, alors que dans les communautés autonomes et pas que, hein, dans les communautés en général des villages et des peuples. C'est pas la même chose de vivre cette pandémie de manière communautaire, quoi, avec des décisions qui sont prises à un niveau communautaire et avec une vie de la communauté qui continue, en fait.
Oui, une entraide opérationnelle. Mm-hmm. Effectivement. Là, on voit, nous ici, qui sommes parfois dans les villes, comme toutes les grandes villes d'ailleurs, hein, mais les uns accolés aux autres, sans finalement se connaître, quoi. Mm-hmm. Compte. Caro, dis-moi, d'autres questions?
Non.
Alors, moi, on arrive doucement, on va te laisser tranquille, Julia, mais j'aurais encore, parce qu'on en profite, tu vois, on essaie vraiment d'en profiter au maximum, j'aurais encore deux petites questions. Ça te va?
Ouais, ça me va.
Super, merci beaucoup. Alors, une première petite question toute simple à laquelle tu vas répondre très rapidement. Et toi-même, est-ce que tu vas embarquer avec la délégation? Est-ce que tu vas les accueillir en Europe? Est-ce que tu vas suivre ça un petit peu comme témoin concerné et averti, puisque notamment tu écris pour Ballast? Voilà, comment est-ce que toi tu vas te situer par rapport à cette par rapport à ce voyage transatlantique, à ces rencontres intercontinentales?
Alors, j'ai pas envisagé de traverser en bateau.
Dommage.
J'espère être rentrée en France, je sais pas bien encore quand, mais au printemps, en été. Non, et puis de pouvoir les accueillir de là-bas. Et puis après, ouais. de faire un petit peu ce que je peux pour soutenir, pour aider, pour que tout ça se passe pour le mieux. Ouais, moi, c'est vrai que mon domaine de compétences, on va dire entre guillemets, c'est un peu la traduction et les écrits. Donc, bah, j'essaierai de suivre ça d'un côté regard média libre et de l'autre soutien à la traduction.
Probable.
Je pense que ça sera ce que je ferai.
Ça, mais c'est génial. C'est-à-dire que probablement sur Ballast, eh bien, on retrouvera des choses que tu auras rédigées.
Bah, oui, on espère bien.
Très bien, très bien. L'autre question, c'était. C'est un petit peu plus compliqué. Tu y répondras à ta mesure, enfin, comme tu le souhaites. Mais parce qu'on a abordé ça, et puis c'est vrai qu'à chaque fois, j'y pense pas parce que pour nous ça coule de source, mais je trouve intéressant. Voudrais-tu nous dire quelques mots du rapport à l'alcool, du rapport à la drogue qui ont cours dans le Chiapas insurgé? Comment est-ce que ça est géré? Tu l'as dit, les choses, elles sont, l'alcool typiquement, il peut ne pas être vendu tout simplement, donc qu'on n'en ait pas accès. Si une personne, eh bien, voilà, fait preuve d'ivresse ou quoi, comment est-ce qu'on gère un petit peu ça? Je te pose cette question-là également parce que ici à Genève, où nous sommes à Libre Radio pas mal en contact avec justement des personnes du Rojava, local ou de la communauté internationaliste qui est à Derik, hein, dans le nord de la Syrie, eh bien, il y a cette problématique. C'est-à-dire qu'eux sont assez critiques, même plus que ça, assez critiques pour utiliser un pléonasme, concernant le rapport que l'on a, nous, ici, avec l'alcool. C'est-à-dire que souvent, le reproche est fait de dire « Ouais, mais bon, si on fait une soirée de soutien, puis qu'on va discuter, puis que les gens arrivent cuits ou je ne sais pas quoi, pour nous, c'est pas sympa, c'est pas très intéressant au bout du compte. » Et ça brouille, les rapports sociaux, les rapports humains, jusqu'à des fois des moments de crise, quoi. Alors, qu'en est-il, pour ce que tu en sais, du rapport à l'alcool et à la drogue chez les apatistes?
Comme on disait tout à l'heure, déjà, c'est interdit, la consommation et la production dans les communautés. Si un zapatiste arrivait sous dans sa communauté, c'est toujours dans le but d'une justice réparatrice, pas d'une justice punitive. Mais en tout cas, le fait, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le fait que cette loi révolutionnaire des femmes, elle était votée et acceptée en consensus, ça veut dire que les gens qui y adhèrent s'en font responsables, en fait. Donc, il n'y a pas la même manière de vouloir transgresser les règles. Disons que c'est, il y a cette idée de ça, c'est des règles qu'on a accordées ensemble. Donc, si moi-même je les contourne, en fait, je suis en désaccord avec moi-même, quoi. Je crois qu'il y a ce truc aussi d'être droit, quoi, d'être droit dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit.
Cette volonté d'être cohérent également, et puis comme tu l'as dit, c'est de la cohérence, et puis c'est un engagement responsable.
Ouais, complètement. Ouais. Et puis je pense que des gens qui ont vécu, qui ont vécu des situations de guerre et qui vivent des situations de contre-insurrection et de tensions permanentes, si le moment où il y a une attaque paramilitaire, la moitié de la communauté est sous, c'est un peu compliqué d'y répondre. Enfin, je crois qu'on est vraiment dans des contextes qui sont si différents que c'est difficile de se projeter. Et c'est vrai que quand on dit, j'aime bien la formule Chiapas insurgé, mais c'est vrai qu'il faut remettre en place le truc que c'est pas du tout le Chiapas qui est zapatiste. Les zapatistes sont présents dans une grande zone du Chiapas, mais il y a aussi des communautés où la communauté entière n'est pas forcément zapatiste. Donc, il y a des moments où le quotidien aussi, il est partagé avec des gens qui adhèrent pas forcément à cette lutte. Ouais, il y a énormément de problèmes d'alcoolisme au Chiapas et au Mexique en général. Ouais. Et ça, on le voit. Enfin, je veux dire, Saint Cristobal, c'est pas Saint Cristobal insurgé. Hein.
Oui, d'accord, je comprends. Concernant la drogue, qu'en est-il? Parce qu'effectivement, alors là, du coup, on a évidemment toute cette histoire de la Colombie, dont on sait que, ben voilà, c'est un pays producteur notoire et que ben il y a des narcos et puis que il se peut que voilà certains mouvements aient utilisé, alors que ce soit les paramilitaires ou peut-être également les FARC ou quoi, qui utilisaient justement la vente de drogue pour déjà se faire de l'argent, mais également pour comme peut-être comme élément stratégique, voilà, et on sait les ravages sur les personnes, notamment les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres. Qu'en est-il de la drogue, en tout cas dans le mouvement zapatiste, elle est absente également.
Oui, elle a le même statut que l'alcool, et je pense qu'ils sont suffisamment conscients de la situation pour justement pas se mettre des bâtons dans les roues, donc d'aller semer. Enfin, ça, c'est une autre des techniques de contre-insurrection, même que des paramilitaires ou des groupes envoyés par le gouvernement aillent semer des plantes de cannabis, par exemple. Je pense que c'est des choses qui se sont faites ou qui se font, hein, j'imagine, parce que c'est une manière justement de tomber dessus, quoi, de dire bon bah voilà, vous êtes en train de pratiquer quelque chose d'illégal. À ce moment-là, l'État intervient. Donc ils sont enfin suffisamment intelligents et conscients pour pas se mettre dans ces situations de porte-à-faux, en fait. Et la drogue, elle est extrêmement présente partout au Mexique tout le temps, et elle fait des ravages, quoi, que ce soit chez les jeunes ou que ce soit chez les moins jeunes aussi, et aussi dans tous les groupes narcotrafiquants qui ont des liens souvent avec le gouvernement, et où la drogue et l'argent, c'est le pouvoir, quoi.
Ouais. Donc là, on voit que de nouveau, chez les apatistes, eh bien, on en est extrêmement conscient. Et puis, plus que conscient, on adopte des pratiques non seulement de protéger et de préserver les populations, mais également de ne pas se laisser influencer, de ne pas soi-même utiliser des méthodes qui seraient à l'envers des engagements et des valeurs que ces engagements mobilisent.
Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Oui, c'est ça, parce que le narcotrafic, etc., c'est un des nombreux visages de cette hydre capitaliste. Donc, si le but, c'est de la combattre, c'est pas en rentrant et en faisant la même chose qu'elle.
Tu sais, si là aussi, il y a un regard quand même un petit peu critique ou par rapport justement à l'Europe et notamment à la France avec le vin français, c'est quelque chose qui a traversé les frontières, mais c'est pas si anodin que ça, parce que quand même, je veux dire, on c'est un lobby également d'une certaine manière. Alors on va pas comparer ça évidemment à des narcotrafiquants, mais c'est pas anodin, et on sait que même le pinard, à un moment donné, on s'en est servi pendant les guerres, hein, pour les personnes, pour les encourager à se rendre au front, hein, pour en faire de la chair à canon. C'est également un lobby économique, et puis c'est également un problème de société, quoi. Est-ce qu'il y a un regard par rapport à ça du côté du Chiapas, des zapatistes?
Alors, j'ai pas le souvenir, moi, d'avoir lu ou entendu des commentaires par rapport à la consommation directe en Europe.
Ouais.
En général, les zapatistes, ils aiment pas, enfin, ils donnent pas des leçons.
Non, bien sûr. Non, je pensais à un questionnement, excuse-moi.
Vous fait ça, et vous faites quoi? C'est toujours plutôt des questionnements qui vous mettent mal à l'aise et qui vous demandent de vous interroger sur et toi, tu fais quoi? C'est toujours très dérangeant. Il y a un communiqué dont il disait ça au début. C'est toujours très dérangeant d'aller en territoire zapatiste pour nous qui venons de l'extérieur, parce que ça nous remet face à des contradictions permanentes. Et j'ose espérer que pendant le voyage en Europe, que toutes ces questions seront posées et que on aura nous-mêmes un regard critique par rapport à tous ces événements, même festifs, qui peuvent tourner au vinaigre par la consommation d'alcool, et où des gens peuvent avoir des comportements complètement déplacés, même dans les cercles militants, et dont souvent les femmes font les frais. Donc j'espère vraiment que ce sera quelque chose qui sera discuté, en tout cas.
Oui, probablement, ouais. Merci beaucoup encore, Julia. Donc on le rappelle, tu es en ce moment à San Cristobal, donc au Chiapas. Tu notamment rédiges des magnifiques textes pour la revue Ballast. On mettra tous ces liens en Non, mais c'est vrai. Je me suis plongé dedans. Enfin, d'ailleurs également, je crois que sur lundi matin, j'ai dû lire des choses de toi. C'est possible.
Non,
hein.
Lundi matin, c'est pas moi, mais je sais pas. Il y a Jérôme Bachette, je sais, qui écrit beaucoup dans lundi matin
ouais,
et qui
c'est ça.
Un auteur à lire qui est très pointu sur le sujet.
Ouais. Donc en fait, bon, bah tout ça, toute façon, tous ces liens, justement, je dis ça parce qu'il est temps qu'on rappelle, puisqu'on arrive au bout là de cet entretien, en tout cas pour cette fois-ci. Les deux choses pour en terminer, c'est de te demander si tu aurais des choses à ajouter, des questions que l'on ne t'aurait pas posées et auxquelles tu aurais souhaité répondre. Et puis, si c'est le cas, eh bien à toi la parole. Et puis si c'est pas le cas, on va faire un petit tour rapide des sites, réseaux sociaux pour activer, pour renforcer, parce qu'elle est déjà active, bien entendu, la solidarité internationaliste opérationnelle. Comme on l'a dit, les logements, les matériels, de l'argent, il y a plein de choses dont on a besoin pour qu'une délégation de 160 personnes se pointe, traverse l'Atlantique. On va rappeler également qu'il y a les 6 déclarations pour le voyage pour la vie à lire, qu'elles sont fantastiques, que, comme tu l'as dit, il y a ce côté ironique également dans ces messages qui font que c'est des textes qui sont juste beaux à lire en soi. Et en plus de ça, il y a des contenus et un projet derrière, donc c'est vraiment des lectures que l'on recommande. Alors, tout ça pour te laisser du temps, pour savoir si tu avais quelque chose à ajouter à tout ce que l'on vient de dire jusqu'à présent.
Non, bah vraiment que j'invite tout le monde à aller lire les écrits des apatistes et entre autres les livres dont on parlait tout à l'heure de la Escuelita. La liberté selon les apatistes, qui sont disponibles sur Internet, traduits en français, avec 2 DVD, ouais. Et qui sont, je crois, vraiment un bon point pour rentrer dans cette histoire et lire l'histoire par ceux qui la vivent. Hein. Je trouve que c'est toujours plus intéressant. Et puis non, vous remerciez beaucoup de votre temps, de votre énergie, de tout ce que vous mettez en place pour nous donner la parole et puis et pour suivre de près cette traversée, ce grand voyage.
Pour nous, c'est un pur plaisir. On ne va pas s'arrêter là. Alors, le site central, c'est enlacesapatista.ezln.org.mx. On y trouve également, on l'a dit, les déclarations, mais également des vidéos, des images fantastiques, des dessins, des broderies, etc. Il y a énormément de choses. Donc voilà.
Il y a tous les communiqués depuis 1993 sur ce site.
Très bien.
Tous traduits en français, mais c'est quand même hyper complet.
Ouais. Et traduit dans plein d'autres langues également.
Ouais.
Donc on peut vraiment aller picorer et puis transmettre.
Vous perdre là-dedans, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais clairement, quoi. Y aurait-il d'autres sites que tu nous recommanderais pour pouvoir se tenir informé? Ben déjà, le site de Ballast, on mettra le lien.
Ouais, y a le site d'Espoir de Chiapas.
Oui, bien sûr.
Il y a beaucoup de choses dessus aussi. Il y a le site du CSPCL en France, qui est le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, qui publie aussi des textes et des mises à jour sur tous ces sujets. Et puis, il y a les adresses mail et le lien... le lien internet Zapatista 2021, qui pour l'instant est un peu une des pages d'entrée, en tout cas au niveau francophone, pour pouvoir se connecter avec l'organisation de la lutte et pour des gens qui voudraient peut-être intégrer des coordinations ou participer au travail des commissions, c'est sur ce site-là que ça se passe.
Très bien, très bien. Et puis pour les personnes qui n'ont ni l'énergie, ni le temps, ni la possibilité de s'engager à ce point-là, elles peuvent également, pourquoi pas, déjà se tenir informées, relayer l'information. Il y aura également des petites cagnottes qui seront disponibles parce que tout ça, ça a un coût. Et puis que, il y aura des petites cagnottes et des petites pages qui seront disponibles. Mais tous ces liens-là, on les mettra de toute façon, nous, sur notre page, pour que ce soit clair, quoi. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. Qu'en dis-tu ?
Ben non, pour moi c'était bien.
Ok.
On a bien discuté.
Très bien.
Merci beaucoup à vous.
Non, merci
vraiment,
beaucoup.
Et pour être aussi informé, parce que je vois que vous êtes à la pointe.
Ah ben, on prépare notre truc. Hein. On n'a pas souvent l'occasion, et puis c'est quand même une occasion qui nous est donnée, d'ailleurs, pour toutes et tous, ne serait-ce que de suivre et puis de participer à chacune et chacun à sa mesure, à ce qui se passe d'ores et déjà. C'est déjà quelque chose, quoi. Donc c'est une aventure qui a déjà cours et on invite toutes et tous à la rejoindre dans la plus grande des bienveillances. Et puis comme on l'a dit, effectivement avec les apatistes, c'est ça qui est très sympa en plus, c'est que bah voilà, il y a toute cette ironie qui est tout le temps présente. On rigole de certaines choses, on est en même temps extrêmement sérieux, extrêmement organisé, mais sans jamais oublier le plus important, c'est-à-dire
la danse.
Exactement. Ce sera le mot de la fin. Ouais. Eh ben merci beaucoup Julia, bonne continuation.
Merci à vous.
Et puis on se retrouve à la prochaine.
Eh ben merci, à bientôt.
www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute.